Vous écoutez un podcast RTL Originals.
Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Ils nous racontent comment ils ont fait basculer ou rebondir une affaire criminelle. Je suis Amandine Bégaud, journaliste à RTL et à M6, et voici l'histoire de Guy Georges, sans aucun doute le tueur en série français de ces 30 dernières années. Entre 1991 et 1998, il a tué 7 femmes et en a agressé 14 autres. À chaque fois, le même rituel, ou presque. Cette façon très particulière, notamment, qu'il a de déshabiller ses victimes en découpant leur soutien-gorge entre les deux bonnets. La police mettra plus de 7 ans à l'interpeller, 7 ans. Et pourtant, très vite, les enquêteurs ont une trace ADN. Mais à l'époque, il n'existe aucun fichier national. Impossible donc, ou presque, de faire des recoupements. Celui qu'on surnomme alors le tueur de l'Est parisien peut agir en toute impunité, semant peu à peu la psychose dans la capitale. Dans cet épisode, la voix du crime est Martine Monteil. C'est elle qui traque Guy Georges sans relâche. Elle aussi qui a l'idée déterminante qui va permettre de l'arrêter le 26 mars 1998. Bonjour Martine Monteil. Et c'est vous qui dirigez la crime, la brigade criminelle, quand Guy Georges a été arrêté ce 26 mars 1998. Mais ce dossier, vous y avez été confronté beaucoup plus tôt, dès 1994, sans vraiment le savoir. D'ailleurs, à l'époque, vous êtes à la BRB, la brigade de répression du banditisme. Et une nuit, on vous appelle sur une scène de crime.
Oui, c'est exact, puisque les brigades centrales sont organisées de telle sorte que à tour de rôle, il y a un tour de permanence pour la brigade criminelle, qui évidemment, elle, est H24 sur le pont. Et il faut bien aussi que leur responsable, de temps en temps, ait au moins un week-end. Donc, effectivement, pour ce jour de 1994, je suis appelée par l'état-major pour me rendre rue du Faubourg-Saint-Antoine sur une affaire criminel, vraisemblablement, et donc je m'y rends, voilà, et donc je fais face à une scène de crime extrêmement violente qui correspond à l'assassinat de Mademoiselle Nischkampf. On voit une jeune femme dénudée sur le lit, la gorge tranchée, avec comme des coups de poignard, des piquets sur la poitrine. Elle a les sous-vêtements qui sont découpés. On comprend qu'il y a certainement eu donc de violences également sexuelles. D'ailleurs, on remarque qu'il y a très vraisemblablement du sperme sur son corps. Enfin bon, c'est une scène de crime qui est très, très, très forte.
Quand vous voyez cette scène de crime à l'époque, en 1994, l'assassinat d'Agnès Nischkampf, là, vous vous dites que ça pourrait être un tueur en série ou on n'y pense pas ?
Alors, disons qu'ils y pensent parce qu'il y a eu une première affaire en 91, qui est l'affaire Escarfaille, et où il y aura quelques similitudes. Donc, à partir de ce moment-là, cette affaire Nischkampf renvoie à la première. Et entre la première et celle-ci, deux autres meurtres dans des parkings cette fois-ci. Pour les enquêteurs, hein, puisque moi je ne suis pas encore à la brigade criminelle, mais pour les enquêteurs, il y a ces deux affaires de parking. Elles sont là, je dirais qu'on ne les oublie pas. Parce que sur ces deux affaires-là aussi dans les parkings, il y a quand même cette espèce
de rituel au niveau du soutien-gorge.
Du bonnet de soutien-gorge coupé, du slip coupé aussi, etc. Vous voyez, des vêtements découpés, enfin voilà. Donc on trouve quand même des similitudes également.
Entre Pascal Escarfaille et Agnès Nischkampf, il y a deux victimes, voilà, retrouvées mortes dans des parkings,
voilà,
dans leur voiture, Catherine Rocher
et Elsa Benadi.
Elsa Benadi, toutes deux en 94. Et même si ce sont deux dossiers différents, deux groupes d'enquêteurs différents, il y a quand même des similitudes frappantes, troublantes,
tout à fait troublante. Hein. D'ailleurs, c'est simple, quand on est sur Nischkampf, je pense que là, les enquêteurs, de toute façon, les englobent. C'est-à-dire que pour eux, ça y est, on est dans un process de serial killer. Voilà. Alors, doit-on les rattacher ou pas ? Il y a quelques hésitations, mais il y a quelques petits indices. Et les indices, ce sont les blessures et aussi cette façon de découper les vêtements et les sous-vêtements.
avec ce Z et ses sous-vêtements à chaque fois coupés.
Voilà, le soutien-gorge, est coupé au milieu, le slip découpé sur les côtés. Voilà, donc ça, ce sont quand même des petits indices qui laissent à penser que, en tout cas, il ne faut pas les exclure totalement.
2 ans plus tard, en février 1996, vous êtes nommé à la tête de la CRIM, la brigade criminelle. Comment vous faites ? Vous reprenez chacune des affaires ? Vous faites expliquer ?
J'ai repris cette scène de crime telle qu'elle est photographiée à la fois par des photos, mais aussi par la lecture des procès-verbaux qui sont très, 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 très détaillés, donc qui vous permettent un peu de vous projeter là-dedans. Vous essayez de voir quels indices, quels points communs il peut y avoir entre chaque dossier. C'est ça. C'est très important de trouver le lien. Et puis, tous ces liens, tous ces éléments qui sont un peu cueillis comme ça dans chaque dossier, doivent vous aider à trouver des pistes. Parce que c'est ça l'idée, c'est de trouver des pistes. Alors, on a aussi des témoignages. Donc, chaque témoignage est important parce qu'il peut aussi vous amener sur les pistes. Et on aura d'ailleurs un témoignage, peut-être et même sans doute plus important que les autres, qui est celui de Mademoiselle Ortega, qui, elle, a échappé à la mort, hein, puisqu'elle a été confrontée à Guy Georges. Mais elle a réussi à s'échapper. Il la suit chez elle de la même façon, il pénètre chez elle, il discute un petit peu, c'est-à-dire qu'elle elle comprend les choses, c'est-à-dire qu'elle est terrorisée. Cette femme est terrorisée, elle comprend qu'il va se passer quelque chose. Et elle essaye de lui parler, de lui poser des questions. Ils vont même fumer une cigarette, ce sera très bien d'ailleurs, puisque lui va laisser...
Son mégot,
il y aura l'ADN dessus, exactement. Et donc, et à un moment donné, comme c'est un duplex, lui monte à l'étage, en fait, pour éteindre la lumière. Et elle, elle est en fait en rez-de-jardin, en quelque sorte. Et là, elle ouvre la porte, et puis elle est à moitié avec des liens, avec de... elle l'enjambe, et elle court, elle va dans la rue, elle se réfugie dans un bar, elle appelle au secours, enfin, etc. Elle réussit à échapper, quoi.
Vous décidez de la convoquer à nouveau, Elisabeth Ortega, pourquoi ?
Alors, Elisabeth a déjà beaucoup travaillé avec le service. Elle est d'ailleurs très liée aux enquêteurs. Elle est vraiment leur témoin majeur, bien sûr, puisque pendant de très longues minutes, elle a été confrontée à lui. Donc, elle fait des rondes avec eux dans les quartiers, puisqu'il est censé quand même être un petit peu toujours vers ce 11e, 12e arrondissement, etc. Donc, il tourne dans l'espoir,
de tomber sur lui, de le reconnaître.
Bon, elle est complètement motivée, donc elle est là, elle regarde, elle a tellement envie de le faire arrêter, parce qu'elle sait que c'est un individu, hein. Là, on est quand même déjà totalement convaincu que c'est un tueur en série, ce qui veut dire qu'il est susceptible de recommencer. Donc la motivation, elle est à son maximum, tant pour les enquêteurs que pour elle.
Et de retirer sur toutes les ficelles, parce que sur la base de son témoignage, notamment, vous faites toute une série de recherches, de vérifications.
Il a le crâne rasé, nous dit-on. On se dit, voilà, on va aller vers les militaires, les pompiers, les policiers, etc. On est, il ne faut pas l'oublier, ça, c'est un élément majeur dans un contexte d'infraction sexuelle, puisqu'il y a viol, etc. Donc, de toute façon, déjà, on examine tous les dossiers d'agression sexuelle qui ont conduit à la mort ou pas, et qui permettent donc de recueillir dans chaque dossier d'autres éléments qui peuvent constituer une piste, vous voyez ? C'est-à-dire que donc, on a embrassé de cette façon, si vous voulez, par déduction, tout un nombre invraisemblable de pistes. Ça donne pas, mais on n'a pas le droit de ne pas le faire. Parce que, et si ça donnait ? Et si ça pouvait donner ? Ne sait-on jamais ? Donc, il faut faire, il faut verrouiller à fond. Donc, c'est un travail de titan. C'est un travail de titan.
Quelques mois plus tard, nouvelle victime, une 6e victime. On est en septembre 1997. Cette fois, c'est Magali Sirotti, une étudiante qui est retrouvée morte chez elle dans le 19e arrondissement. Vous vous êtes rendue sur place. Là, vous vous êtes tout de suite dit, c'est le même homme ?
Alors voilà. Et pourtant, si vous voulez, ce qui est un petit peu différent, c'était la localisation. On était vers le 19e, on s'est éloigné du cœur de ce qu'était son territoire d'action à ce prédateur. On est dans le 19e. Pour autant, je gravis les marches jusqu'à cet appartement. Et j'arrive, deux de mes collaborateurs sont déjà sur place, qui ne disent rien d'ailleurs, qui m'accueillent. Et quand je vois le cadavre de cette jeune femme, si vous voulez, voilà, on se regarde et je leur dis, mais c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai, parce que je comprends que c'est lui qui a sévi. Parce que c'est devenu une marque de fabrique. Quand vous regardez l'état de la victime, vous avez une réelle signature. C'est-à-dire toujours cette gorge tranchée, c'est piqué sur la poitrine, ces sous-vêtements qui sont coupés entre les bonnets du soutien-gorge, latéralement sur le slip, etc. Et puis, bon, une scène de violence, en laissant d'ailleurs le corps un peu vrillé sur le lit. Vous voyez, c'est à tel point d'ailleurs que dans le but de présenter ça aux assises, nous avions réalisé justement une sorte de petit album où on voit, on aurait pu superposer, si vous voulez, les images de ces corps. C'était la même chose, même dans le positionnement, tant par les blessures que par le positionnement du corps. Et il y a une sorte presque de rituel dans son acte meurtrier.
Là, il n'y a pas de trace ADN chez Magali Sirotti. Deux mois plus tard, Estelle Magde est assassinée dans le 11e arrondissement, dans son appartement. À nouveau la même scène. Et là, cette fois, en revanche, vous trouvez une trace ADN.
Absolument. Il y a une trace ADN. Il y a même pas mal de choses, puisqu'il abandonne même un t-shirt. Donc, on y récupère sa sueur, bref, des éléments ADN. Donc, dans cette affaire, on aura sur... pas toutes, mais sur beaucoup de scènes de crime, si vous voulez, de l'ADN. Hein, donc cette affaire, pour nous, c'est important d'avoir ces preuves-là. Il nous manque juste, à l'époque, l'essentiel, c'est-à-dire que nous n'avons pas de fichier pour faire la comparaison et pour essayer de trouver et de mettre un nom sur cet ADN.
Cet ADN, les enquêteurs l'appellent SK1,
oui.
Et on mettra... des années, donc, avant de trouver le nom d'Esca 1. À ce moment-là, quelques temps après le meurtre, l'assassinat d'Estelle Magde, vous avez une idée qui va être déterminante. Vous décidez de comparer cet ADN, le SK1, à une plus grande échelle.
Oui, alors, il se trouve que j'ai été une nuit... je me suis déplacée à l'Hôtel Dieu, aux unités médico-judiciaires, qui étaient dirigées à l'époque par le docteur Diamant Berger, pour une femme violée... En définitive, je vois bien que, et ce qui est normal, c'est-à-dire que l'examen constaté, le viol, amène souvent le prélèvement aussi de sperme. Et ces éléments sont placés sous scellés. Et je me rends compte qu'il y a une sorte de mine de scellés qui sont en attente. Je me dis que, puisque ce sont des affaires à connotation sexuelle et que nous en examinons tous les dossiers, il est bon aussi en parallèle de faire des comparaison à partir de tous ces éléments. Et comme nous étions très proches du magistrat instructeur qui était le juge Thiel et qu'il venait souvent nous voir à la crime, etc. et on allait le voir et tout, et donc on discutait de ses opportunités. Et en fait, lui a complètement complété cette idée par le fait de dire, bon, alors oui, mais faisons encore plus fort, allons-y, prenons tout ce qu'il peut y avoir, réquisitionnons tous les laboratoires.
Alors, c'était complètement illégal à l'époque.
Voilà, exactement. C'était périlleux et c'était courageux de sa part, parce qu'en définitive, mais l'affaire valait le coup, quoi. C'était important, là, je veux dire, de le faire. C'est-à-dire qu'il a donné au laboratoire l'obligation d'examiner, de comparer tous les scellés dans des affaires à connotation sexuelle qu'ils ont en leur possession. Donc, c'est ce qui se fait. Alors, le laboratoire qui sera le plus en pointe, ça va être celui qui a été finalement le plus proche de nous tout au long de cette enquête, qui est le laboratoire de Nantes, qui était dirigé par le docteur Pascal, qui lui est un scientifique, mais enquêteur. C'est-à-dire qu'il est passionné aussi par son métier, il veut nous aider à tout prix, quoi. Je veux dire, il est dedans pour l'avoir connu, je peux vous dire qu'il était vraiment très, très, très impliqué. Et donc, on avait pris l'habitude, dans la mesure où le laboratoire de Paris n'était pas très coopératif, d'envoyer tout à Nantes. Il faut bien le dire aussi, sans que ce soit légal non plus, il se constituait une sorte de fichier qui ne veut pas dire son nom.
4 mars 98, il appelle le juge Thiel et il vous dit il y a une bonne et une mauvaise nouvelle.
Exact, et il dit il y a une bonne, et alors je lui dis commençons par la bonne. on avait besoin par ces temps-là, et la bonne, il dit, ça y est, ça a matché, on a identifié le tueur, c'est Guy Georges, Et ça, c'est la mauvaise nouvelle, hein, de... puisque Guy Georges, en fait, est passé dans le service en 95, quoi.
À ce moment-là, il faut juste remettre un tout petit peu dans le contexte. Guy Georges, il est entendu comme plein d'autres délinquants sexuels qui ont été condamnés dans le cadre de l'enquête des meurtres des parkings. Et les enquêteurs ont décidé d'interroger toute une série de délinquants sexuels, de les faire sortir de prison. Son sang est comparé à la trace de sang qui avait été retrouvée dans une des voitures, celle d'Elsa Benadi, et ça ne donne rien.
Il est confié au groupe qui est en charge d'autres affaires. Et là, l'idée, c'est aussi de confronter sa photo, etc.
À Elisabeth Ortega.
Qui est le témoin essentiel pour la brigade criminelle. Et là, elle ne le reconnaît pas. Et comme en outre, on n'a absolument pas d'empreinte digitale dans cette affaire, que nous n'avons pas de fichier d'empreinte génétique, ce qui aurait pu évidemment nous sauver, et que même, au-delà de ça, quand on lui fait enlever ses chaussures, etc., et ses chaussettes, il n'a pas le pied égyptien.
Qui avait été une des traces qui était retrouvée.
Une des traces, voilà, qui était en fait une trace de glissement, mais ça, on ne pouvait pas le savoir. Et en définitive, donc, il n'a pas le pied égyptien. Ce qui fait que, avec tous ces éléments, on se dit, ben non, c'est pas lui, quoi. Voilà,
les et donc, on ne compare pas son sang avec SK1.
Voilà, c'est-à-dire que non, il part dans la nature. Mais de toute façon, sans fichier, on n'aurait pas pu forcément le matcher tout de suite. Hein. Tout dans cette affaire demeure sur la non-existence de ce fichier. Il a été créé à l'issue de l'affaire Georges et c'est un outil absolument indispensable, c'est-à-dire qui permet la résolution de milliers d'affaires. Hein. Tous les ans, ça matche par milliers. Mmh. Hein. Voilà, il faut quand même un peu prendre conscience de ça. Donc à l'époque, tous ces atermoiements nous ont fait perdre un temps fou. Et enfin, c'est en 2003 qu'on aura un fichier complètement plein, c'est-à-dire qui concernera tous les crimes et délits, mais pas seulement à connotation sexuelle, c'est-à-dire l'ensemble des crimes et délits. Enfin, il sera complet.
Revenons à ce mois de mars 1998. Est-ce que vous vous souvenez précisément de ce que vous avez ressenti quand vous avez su que c'était terminé, quand on vous a dit « Allez, c'est bon là ».
Écoutez, un grand soulagement. Un grand soulagement parce que d'abord, j'ai une pensée pour les familles de victimes, tellement d'ailleurs que nous les avons immédiatement appelées quand même pour les informer. Mais maintenant, passer le soulagement, action. Action, parce qu'il faut faire très vite. Très vite. Donc la priorité, c'est d'abord la photo. Et la photo diffusée partout. Partout. Il fallait que chaque flic de France et chaque gendarme ait dans leur poche la photo de cet individu pour, s'il le rencontre, qu'il soit bien imprégné de cette image et pour l'interpeller. Donc, blocage aux frontières, etc. Enfin, bon, tout ce que l'on fait passer par télégramme, par messagerie, etc. Très, très grande vitesse. Et puis, mobiliser des troupes. Alors, évidemment, en priorité, la brigade criminelle, c'est elle le moteur de l'enquête, c'est le cœur de l'enquête. Mais à elle seule, on est à une centaine d'hommes et de femmes, mais il fallait aussi...
Ça suffit pas ?
Bah, ça suffit pas. Tout le 36 a été mobilisé, hein, c'est-à-dire... également les autres brigades centrales et même des services territoriaux. C'est-à-dire qu'on constituait des équipes pour aller sur des points, vérifier s'il peut y être, c'est-à-dire à partir de toutes les affaires et tous les procès-verbaux qui ont été établis concernant son cursus criminel, si vous voulez. Donc, on a mis du monde sur les squats qu'il fréquentait, les bistrots qu'il fréquentait, ses points familiaux, ses points relationnels, ses points où il allait chercher des avantages sociaux, etc., des pécules ici ou là. Enfin, vous voyez, donc, absolument tous les points où il est susceptible de se trouver ou de le croiser ou d'avoir des éléments. Donc, ça nous fait vraiment énormément de gens qui sont projetés dans la nature pour essayer de le récupérer.
Deux policiers l'interpellent. Vous êtes prévenu comment à ce moment-là que...
Ah ben,
immédiatement.
Immédiatement. C'est-à-dire qu'ils avertissent la brigade criminelle, puisqu'ils savent que c'est nous qui cherchons cet individu. Donc, eux, ils sont en planque, comme on dit, en surveillance pour autre cause, hein, d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que quand il sort du métro, vous voyez comme quoi la photo, ça sert bien. Il dit, mais c'est lui, quoi. Bon, parce que... C'était quand même une très bonne photo. Et donc, ils décident de l'interpeller. Ils ont bien fait. De toute façon, il vaut mieux, à la limite, l'interpeller et se tromper plutôt que de laisser passer un individu sur lequel on a un doute. Hein. C'est les consignes qui avaient été données. Or, là, ils n'ont pratiquement pas de doute. Ils pensent que c'est lui. Voilà. Et ils l'interpellent. D'ailleurs, il se rebelle très violemment. Hein. C'est un type qui est assez... assez tonique, costaud, musclé, oui, voilà. Donc, mais bon, il l'interpelle et il nous l'amène au 36. Il sera présenté au magistrat, confronté à lui immédiatement. Il est très fermé, très buté, très bloqué, ça se passe pas très très bien. Et le juge m'appelle et me dit, bon, ben voilà, il passe la main et on le récupère, quoi, voilà.
Il y a une scène que tous les enquêteurs racontent, tous ceux qui ont vécu de près cette affaire, c'est quand Guy Georges arrive au 36, justement, 36 quai des Orfèvres, pour y être entendu. Tous les policiers qui sont présents se massent autour du grand escalier, qui était un escalier mythique. Mmh. Tout le monde veut le voir.
Moi, j'y étais, dans cet escalier, je voulais voir à quoi il ressemblait. Et surtout, c'est dingue, j'ai immédiatement fait défiler les scènes de crime, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que je mettais l'individu que j'ai toujours imaginé en train de fracasser, de violenter, de tuer ses femmes, si vous voulez. Vous voyez, je sais pas, je dis, ben c'est lui, voilà, c'est ce monstre. Pour moi, c'était ce monstre, voilà. Nous, on a notre vécu. Hein. Notre vécu, ce sont des scènes de crime dont vous êtes imprégnés du jour où vous les avez vues, vécues. Et voilà, ça vous marque à vie, je dirais, presque d'une certaine façon. Ces scènes de crime égale lui. Et lui égale ses scènes de crime. Donc, si vous voulez, à chaque fois, c'est rattaché. Alors, il peut être gentil, aimable et tout. Ça, c'est l'enveloppe. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Et dedans, il y a un monstre qui se met en action, déclenché par un petit quelque chose. Voilà, hein, le passage d'une jolie fille devant lui. Et hop, une pulsion s'installe. Et la mécanique criminelle se met en marche. Et moi, c'est ça que je vois. Parce que nous avons trop vécu, non seulement ces scènes de violence, mais auxquelles nous sommes, entre guillemets, malheureusement, habitués, puisque c'est notre métier, un peu comme les médecins, mais aussi, et ça c'est encore plus difficile, je dirais, presque, mais aussi les familles. Vous voyez, parce que ça, vous avez vécu leur douleur. Douleur de perdre un enfant. Donc ça marque. Quand vous êtes, vous, à l'étage sur la scène de crime et que vous savez que les parents viennent d'arriver en bas de l'immeuble, qu'il faut aller les voir pour leur dire que c'en est fini pour leur fille. Puis on est surtout bouleversé de descendre, parce que c'est quand même mon rôle, et de leur dire, vous imaginez un peu la réaction des parents. C'est des cris, des pleurs enfin, vraiment infinis que vous partagez avec force. Vous voyez, avec cœur. Donc, c'est tout ça, personnellement, enfin, moi, je peux pas les effacer. Ça n'est pas possible. Donc, on pourra me dire tout ce qu'on veut, mais ça reste.
Guy Georges ne passe pas tout de suite aux aveux. Devant le juge-t-il, vous le disiez, il nie tout. Le juge-t-il vous le confie, alors ?
Oui.
Comment ça se passe, là ?
Bah écoutez, là, nous, on le reçoit à notre tour, et puis on le confie aux enquêteurs. Donc, il passe dans un premier temps dans un groupe, si vous voulez, où il est interrogé. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il va passer par chaque groupe qui est en charge d'un dossier. Et il nie. Il nie malgré ce qui lui est servi, c'est-à-dire l'évidence. Ce sont quand même des scènes de crime où il y a sa signature. Il faut trouver l'individu en face qui va pouvoir tout d'un coup créer un lien, voyez, un petit quelque chose. Et ça se passe un peu toujours comme ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'avance.
On essaye.
Et voilà, on essaye, il peut y avoir un blocage. Bon, bah, si ça passe pas, je crois que dans ces conditions, faut pas trop insister. On passe à un autre, voyez. Donc voilà. Et c'est donc avec l'un d'entre eux que bon, on a senti qu'il se passait quelque chose. Disons que l'échange était plus souple, je dirais presque. Vous voyez, plus ça coulait plus de sources, ça parlait plus facilement, même si c'est au départ de choses et d'autres, parce que c'est ça, je crois qu'il faut bien aussi bien parler de football que d'actualité, que de n'importe quoi. Il faut essayer de l'apprivoiser. J'ai envie de ce terme, parce qu'on est face à un faux, finalement. Bon, alors, donc, c'est un peu ça aussi, c'est l'apprivoiser. Et en l'apprivoisant, à un moment donné, ça bascule. Il faut l'amener à ça, c'est-à-dire entrer dans sa course. Bon, bah voilà, t'as vu la jeune femme, etc. Bon, voilà, mais elle t'a plu, elle était belle, etc. Vous voyez, et à partir de là, ça peut partir. C'est le cas. À un moment donné, ça part. Donc, quand c'est parti, on tire la ficelle. Et je dirais que quand quelqu'un comme ça, de ce type de criminel, se déclenche, après, Alors là, je dirais qu'on ne l'arrête plus, presque, d'une certaine façon, si vous voulez. C'est-à-dire que lui, il se libère. Il se libère et il raconte et il donne des détails.
Et il va donner des détails extrêmement précis. C'est chirurgical. Hein,
c'est chirurgical
certains...
et moi, c'est ce qui me plaît. Parce que ça vous permet de comprendre le cheminement par la parole du criminel. Il vous explique comment il arrive à ça. Et ça, c'est riche d'enseignements. D'abord parce que vous voyez la répétition un petit peu de cette machine criminelle qui se met en route. Ça peut servir aux psychiatres après, qui vont d'ailleurs s'entretenir avec lui, l'examiner, etc. Et il donne des détails sur description dans l'appartement. Et ça, c'est pas dans les journaux, ça n'a pas été dit sur les médias, etc. Donc il ne peut pas l'inventer. Il y était. Donc c'est une preuve supplémentaire. Il faut penser à quoi ? Aux assises avec des magistrats, des professionnels qui ont besoin de toute cette matière. Le magistrat, quand il entend ça, mais il doit se délecter parce qu'en définitive, outre la preuve scientifique, bah, il a aussi des aveux qui sont circonstanciés, c'est-à-dire dans le détail. C'est extraordinaire et riche d'enseignements pour l'avenir aussi. Riche d'enseignements pour l'avenir parce que lui-même, il dit dans ses propres aveux, si jamais un jour je suis libéré, je recommencerai. Donc, voilà. On comprend, surtout dans ces aveux, c'est pour ça que ces aveux sont importants, et dans ce récit, combien c'est une mécanique criminelle qui se met en marche. Et Guy Georges, quand il raconte, il le raconte lui-même très bien. Il dit, j'ai vu telle femme, vous voyez, il est dans la rue un soir, il fait beau, il voit passer une jolie fille et tout, et il décide de la suivre. Et comme tout homme qui voit passer une jolie fille éventuellement, qui se dit « tiens, je la draguerai bien », bon, l'idée, c'est de l'approcher et de dire, d'inviter, par exemple, à prendre un café, vous voyez, ça, c'est un... bon. Et lui, non, il suit, il la suit jusqu'à chez elle et il passe le porche de l'immeuble et plus que ça, il est derrière elle dans les escaliers et là, il vous explique « je la suis et je sais que je vais la tuer ». C'est-à-dire qu'en fait, le plaisir, la pulsion, c'est de tuer. Cette jouissance, elle est morbide. Ce n'est pas la jouissance d'un homme normal. Donc, c'est qu'une mécanique criminelle qui est assez éloignée du centre sexuel de l'individu. C'est plutôt donc dans sa tête, c'est ce qui ne va pas dans sa tête, cette espèce de mécanique criminelle qui se met en route.
Et voilà. Que rien ne peut arrêter.
Et que rien ne peut arrêter. Et c'est d'ailleurs... pour ça aussi, qu'on comprend mieux, dans cette notion de mécanique, le rituel que l'on observe sur les scènes de crime. L'action criminelle, c'est sa façon d'agir. Il les ligote, il les bâillonne, éventuellement, vous voyez, enfin, etc. Il y a cette espèce de rituel qui constitue cette espèce de mécanique criminelle. Donc ça existe toujours, je veux dire, c'est répétitif.
Il est finalement condamné le 5 avril 2001 à une la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Ça veut dire qu'il est libérable en 2020, c'est-à-dire l'an prochain, dans quelques mois. Est-ce que ça vous inquiète, ça ?
En tout cas, oui, je pense qu'on prendrait de gros risques. Parce que rien ne dit que, justement, pareil, de la même façon, en voyant passer une jolie fille, rien ne dit que, hop, il n'y ait pas à nouveau cette espèce d'appel vers un assouvissement, si vous voulez, de ces pulsions morbides, et que, ben voilà, ils suivent la jeune femme, etc. Et doit-on prendre le risque ? Là est la question.
Il y a certains qui vous diront que, bah oui, mais il a payé. Après tout, on peut peut-être le surveiller, je ne sais pas, soit via un bracelet électronique, soit... Et puis on a le fichier aujourd'hui, donc si jamais il repasse à l'acte, on l'interpellerait.
Ah, oui, d'accord, mais si jamais il repasse à l'acte, ça veut dire que vous vous envisagez qu'il y ait une victime. Moi, je veux victime zéro, moi. Victime zéro. Donc, pas de prise de risque. Et puis, le bracelet électronique, vous croyez que ça va empêcher quelque chose, éventuellement ? C'est-à-dire, oui, ça permettra de le rattraper plus vite. Ça, c'est sûr. La traque ne va pas durer longtemps, parce qu'on le localisera. Mais est-ce qu'on va vraiment l'empêcher de faire quelque chose, s'il a vraiment une pulsion ? Ah, je doute.
Vous avez le sentiment que les choses ont évolué, bien sûr, j'imagine, depuis cette affaire sur la façon de traquer notamment les tueurs en série. C'est d'ailleurs une de vos fiertés, hein, vous nous le disiez, d'avoir contribué à la création de ce fichier. Aujourd'hui, une telle histoire, elle ne serait pas possible ?
L'enquêteur a maintenant beaucoup plus d'outils et d'outils plus réactifs à sa portée. Néanmoins, je reste toujours convaincue que l'enquêteur a un rôle primordial quand même, si vous voulez. C'est pas que les machines. Les machines, elles fonctionnent parce que vous les alimentez et parce que vous savez les lire, les confronter. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une espèce de jeu interactif entre l'homme enquêteur et ses machines. Voilà, c'est un plus, mais il y aura toujours sa sagacité, son opiniâtreté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher, il faut continuer, vous voyez, il y a tout ça. C'est ce que j'appelle être un bon flic, un bon enquêteur, et bon, c'est quand même le rôle principal.
Vous venez d'écouter un épisode des Voix du Crime consacré à l'affaire Guy Georges avec le témoignage de Martine Monteil. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur notre site rtl.fr. Et c'est Jacques Pradel que vous retrouverez dans le prochain épisode des Voix du Crime. Il y sera question de l'affaire Caroline Dickinson, une collégienne violée et tuée lors d'un voyage scolaire en France. La voix du crime sera celle du juge Van Runbeck qui a permis l'arrestation du meurtrier.